Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous au poste.fr.
Bonjour les opostiennes, les opostiens, amis du café, des féminismes, amis de la science, amis des femmes scientifiques qui ont eu le courage à travers l'histoire d'œuvrer dans un monde si masculin et qui ont eu aussi le talent pour sonder les mystères de l'univers et des atomes. Bienvenue sur Bonjour Colère, notre nouvelle émission mensuelle dédiée aux luttes féministes, et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Elisabeth Bouchaud. Bonjour Elisabeth, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Pauline, bonjour les opostiens et les opostiennes.
Alors Elisabeth Bouchaud, vous avez eu deux vies. Vous êtes d'abord physicienne spécialisée dans la mécanique de la rupture. Vous avez publié plus d'une centaine d'articles scientifiques. Vous êtes lauréate de plusieurs prix scientifiques. Vous avez travaillé au commissariat à l'énergie atomique. Et depuis fin 2018, vous avez stoppé cette carrière pour vous consacrer à plein temps à votre seconde passion depuis toujours, le théâtre. Vous êtes donc aujourd'hui dramaturge, comédienne, metteuse en scène et directrice du théâtre La Reine Blanche à Paris, où vous mêlez vos deux amours pour créer ce que vous appelez un théâtre scientifique qui, comme dans un laboratoire, cherche à rendre visible l'invisible, non pas par les sciences, mais par la scène. Et c'est particulièrement ce qui est en jeu dans votre trilogie Les Fabuleuses, qui se joue en ce moment, et qui rend justice à des femmes oubliées, méconnues, qui ont pourtant changé la face du monde. Alors, pourquoi, pouvez-vous nous raconter en quelques mots de quelles femmes parlent ces trois pièces, et pourquoi avoir choisi ces trois-là en particulier ?
Alors, le premier épisode retrace la vie et l'œuvre de Lise Meitner, qui était une physicienne autrichienne née à la fin du 19e siècle et qui a compris le mécanisme de la fission nucléaire, c'est-à-dire que les noyaux des atomes peuvent, sous impact d'un neutron, se casser en deux en libérant une énergie considérable. Alors, elle a un destin rocambolesque, tout à fait tragique pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une femme qui a un niveau moral et éthique très supérieur à la moyenne, puisque bien qu'étant une physicienne très reconnue pendant la Deuxième Guerre mondiale et bien sûr du côté allié, elle a refusé de faire partie du projet Manhattan parce qu'elle ne voulait pas œuvrer à une arme de destruction massive de l'humanité. Enfin, c'était une femme exceptionnelle à beaucoup de points de vue, mais en particulier pour sa découverte. Et elle a collaboré pendant très longtemps avec un chimiste allemand qui s'appelait Otto Hahn, qui lui a eu le prix Nobel de chimie pour la découverte de la fission nucléaire. Elle a été présentée 49 fois au prix Nobel et elle ne l'a jamais eu. En revanche, elle qui a refusé de fabriquer la bombe, on l'a appelée la mère de la bombe atomique, et comme elle était juive, on l'a même appelée la mère juive de la bombe atomique. Évidemment, quand il y a un monstre, il faut une mère, il faut une femme à l'origine de tout ça. Donc, c'était elle qui était la victime désignée de cet opprobre. Donc, voilà, c'est un destin à la fois tragique, extraordinaire, une personne tout à fait hors du commun. Et finalement, la fission nucléaire fait partie des découvertes qui ont complètement changé la face du monde. Il y a eu un avant et un après. Donc, il me paraissait absolument nécessaire que le public connaisse cette femme et connaisse cette histoire et les conditions de la découverte de cette fission nucléaire. Donc, c'est pour ça que c'est mon premier épisode. Ça s'appelle « Exil intérieur ». Le deuxième épisode de la série est consacré à une astrophysicienne irlandaise qui a aujourd'hui 80 ans et qui est toujours avec nous, qui s'appelle Jocelyn Bell, et qui, à la fin des années 60, pendant qu'elle faisait sa thèse à l'université prestigieuse de Cambridge, a découvert un phénomène astrophysique d'une très grande importance qui s'appelle les pulsars, qui sont les signaux envoyés par les étoiles à neutrons. Et pour cette découverte, qui était la sienne, dont elle a eu beaucoup de mal à convaincre son patron de thèse, Anthony Hewish, eh bien c'est Anthony Hewish qui a eu le prix Nobel de physique en 1974.
Alors peut-être qu'on peut mettre la bande-annonce, si c'est tout bon. Donc de la deuxième pièce qui s'appelle Prix Nobel, apostrophe Bell, le nom de famille de la physicienne, de l'astrophysicienne.
Oui.
C'est bien ça.
La régie est prête.
Ok.
D'accord.
Oh, mais c'est fou. Mais ça s'aligne parfaitement. Mon pulsar.
Pulsar.
Oui, c'est comme ça que j'appelle ce signal à cause de sa structure.
Attends, comment voulez-vous qu'on y comprenne quoi que ce soit? Ça ne sert à rien. Un tel enregistrement, à rien. Mais... nous venons de faire une découverte majeure.
Quels objets célestes émettent cette étrange signal?
Ce sont des étoiles à neutrons.
Est-ce qu'une étudiante en astrophysique à Cambridge s'intéresse à la mode?
Il fait comme si cette découverte était la sienne, comme si je n'existais pas.
Les femmes scientifiques sont considérées comme des extraterrestres,
des petites femmes vertes.
Si votre projet de fonder une famille, vous n'avez qu'à besoin d'un doctorat.
Je vois que tu ressens quand tu comprends enfin les thèmes intenses. C'est sans prix.
Le professeur Hewish vient de recevoir le prix Nobel de physique.
Mon refuge à moi a toujours été le ciel.
Donc voilà, on vient de voir la bande-annonce du deuxième volet, comme je disais, s'appelle Prix Nobel. Et donc la troisième n'est pas encore en représentation, mais très bientôt. Et alors, de qui parle-t-elle
Alors, le troisième épisode qui sera créé à la Reine Blanche le 7 mai prochain concerne Rosalind Franklin. Rosalind Franklin était une physico-chimiste britannique qui était spécialiste des rayons X et qui a travaillé sur la structure de l'ADN. C'est elle qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN. Et c'est une découverte évidemment tout à fait fondamentale qui est à l'origine de toute la biologie moléculaire moderne. Et cette fois, c'est une histoire encore plus terrible que les deux précédentes parce qu'on lui a volé, mais vraiment volé, deux résultats majeurs issus de ces expériences qui ont permis à Maurice Wilkins, Francis Crick et James Watson d'obtenir le prix Nobel de médecine pour une découverte qui était celle de Rosalind Franklin, la structure, encore une fois, en double hélice de l'ADN. Ils ont obtenu le prix Nobel de médecine en 1962. Alors, Rosalind Franklin, qui ne se protégeait pas et qui travaillait sans arrêt avec ses rayons X, est décédée en 1958. Mais à l'époque, on aurait pu lui décerner le prix Nobel à titre posthume. C'est donc un choix délibéré du comité Nobel de ne pas l'avoir fait, puisque la règle en vertu de laquelle il est impossible de décerner un prix Nobel à titre posthume date de 1974.
Alors, pour commencer à développer ensemble ces différents processus et ces différentes fois qui sont si nombreuses où des femmes ont été spoliées de leurs travaux, pour commencer, comme on dit, une question un peu provocatrice, mais voilà, pour rentrer dedans, que peut-on répondre à ceux qui disent que si l'histoire n'a pas retenu beaucoup de noms de femmes scientifiques, on y reviendra plus tard, mais c'est que les femmes, c'est tout simplement que cela correspond à la réalité et que les femmes n'ont pas joué un rôle majeur dans la science. Là, on vient d'évoquer trois exemples, mais on va dire de manière plus systémique, plus globale, que peut-on répondre à quelqu'un qui penserait ça?
Mais je crois qu'il faut montrer que c'est totalement faux, donc il faut aller faire des recherches sur ce qui s'est réellement passé. Et je trouve que c'est très important de dire l'inverse de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de montrer que si le nom de ces femmes n'a pas été retenu, ce n'est pas qu'elles n'ont pas fait de découverte majeure, c'est parce qu'elles ont été poussées dans les oubliettes de l'histoire par un système patriarcal qui efface le nom des femmes, quel que soit d'ailleurs le domaine, mais en particulier en sciences, qui reste un domaine très très masculin. Et je trouve que ça, et c'est une de mes motivations pour avoir entrepris cette série théâtrale, c'est très important pour les filles qui ont envie de faire des sciences et qui souvent s'auto-censurent parce que on les persuade que elles n'en sont pas capables parce que ce sont des femmes. Et ça, c'est totalement faux. Et ce qui m'intéresse dans la série aussi, c'est que bon, on avait évoqué ces trois premières femmes, il y en aura d'autres, c'est que elles ont vécu finalement dans des environnements très différents, à des époques assez différentes, dans des pays différents, et pourtant l'histoire est toujours la même. On voit des hommes qui se battent pour obtenir la première place, parfois honnêtement, parfois beaucoup moins honnêtement, et puis des femmes qui sont réduites au silence, en fait. Parce que vous savez bien que si une femme se met à dire « mais c'est moi qui ai fait cette découverte, je me bats pour me faire reconnaître », elle est tout de suite hystérique, acariâtre, enfin voilà. C'est pas du tout ce qu'on attend d'une femme, ça n'est pas cette attitude-là. En tout cas, ce qu'on attendait. Heureusement, on a fait quelques progrès. Mais voilà. Et finalement, regarder les choses d'un peu haut, c'est-à-dire regarder la série et non pas chaque épisode particulièrement, nous permet de voir que c'est un système qui réduit les femmes au silence, à l'invisibilité. Parce qu'on peut toujours dire « Lise Meitner n'a pas eu le prix Nobel ». Ah ouais, oui, être juive en 1938, c'était pas forcément facile. Jocelyn Bell, oh, bah, elle était étudiante, on va pas donner le prix Nobel à une étudiante. Rosalind Franklin, bah, elle est morte. Donc on peut toujours trouver des circonstances particulières au fait que ces femmes ont été évincées. Mais je crois qu'en regardant l'ensemble de ces histoires, on se rend compte que c'est simplement un système qui invisibilise ces femmes.
Et justement, en parlant de système, une fois que l'on a vu les trois pièces, alors j'ai pas pu voir la troisième, mais en prenant connaissance, comme vous dites, on réalise qu'il n'y a pas forcément... que les histoires ne sont pas les mêmes, que ce qui se produit au final est le même. En revanche, j'ai l'impression que la façon dont cette invisibilisation s'opère n'est pas la même à chaque fois. Déjà parce que, comme vous disiez, ce n'est pas toujours la même situation. Dans la première, il y a tellement ce contexte d'antisémitisme énorme que ça place évidemment dans le contexte peut-être le plus particulier possible. Et la seconde, dans le second, elle est étudiante. Dans le troisième, en revanche, elle n'est, comment dire, elle est une scientifique respectée et elle n'a pas ce statut d'étudiante. Donc, on réalise qu'il n'y a pas forcément le même procédé qui s'applique à chaque fois pour cette spoliation. C'est un peu plus subtil. Pouvez-vous nous raconter de quelles différentes façons dans ces pièces, mais peut-être si vous avez d'autres exemples, c'est bienvenu aussi, comment de différentes façons on arrive au même point, celui où le travail d'une femme n'est plus vraiment le sien, en fin de compte.
Alors, dans la première pièce, Lise Meitner, elle travaille à Berlin, avec donc son collaborateur Otto Hahn, qui est chimiste. Et ils travaillent d'abord sur la radioactivité. Ils travaillent ensemble pendant 30 ans. Alors, elle arrive en fait à Berlin en 1907. Et en 1933, Hitler devient chancelier d'Allemagne. Sa situation, elle est juive d'origine, elle est convertie au protestantisme, mais ça, pour les nazis, la conversion n'a que peu d'importance. Donc, ils la considèrent comme juive. Elle se sent protégée quand même par plusieurs choses. Elle est autrichienne, elle n'est pas allemande. Elle travaille dans un institut qui s'appelle l'Institut Wilhelm Kaiser, qui est un institut de droit à la fois privé et public. Donc, c'est pas exactement comme les universités. Vous savez que dès avril 1933, tous les professeurs juifs ont été démis de leurs fonctions des universités allemandes. Et puis, elle a servi pendant la Première Guerre mondiale du côté austro-allemand, finalement, en étant infirmière sur le front en 1915 et 1916. Donc, elle se sent protégée, elle ne part pas, et elle met en place des expériences où on bombarde des noyaux atomiques avec des neutrons. C'est elle la tête pensante de la mise en place de ces expériences. Mais en 1938, elle est vraiment après l'Anschluss, après l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne en mars 1938, elle est vraiment obligée de partir. Elle est vraiment en danger et des physiciens à l'échelle internationale essayent de comprendre comment on peut exfiltrer Lise Meitner d'Allemagne. Donc, elle s'enfuit avant que les résultats de ces expériences soient analysés. Ils sont analysés par Otto Hahn et Fritz Strassmann, qui est un chimiste que elle et Otto Hahn ont recruté pour travailler avec eux. Et puis, Otto Hahn lui rapporte des résultats très étonnants de ses expériences qu'il ne comprend pas. Et il lui demande à elle d'y réfléchir. Elle y réfléchit et en discutant avec son neveu qui est aussi physicien, Otto Robert Frisch, eh bien, elle arrive à comprendre cette chose impensable à l'époque, que les noyaux des atomes peuvent se casser en libérant une énergie considérable, c'est la fission nucléaire. Donc, elle intervient à deux niveaux, la mise en place des expériences et la compréhension du mécanisme. Donc, elle aurait eu droit à avoir le prix Nobel, mais le comité Nobel, en 1944, décide de l'octroyer au seul Otto Hahn. Et ça, c'est une question incroyable. Comment on a pu aussi donner le prix Nobel à quelqu'un qui est resté avec l'Allemagne nazie, qui n'était pas nazi lui-même, il n'a jamais eu sa carte du parti nazi, etc. Mais tout de même, qui est un personnage assez ambigu, et ne pas le donner à Lise Meitner. Donc, voilà les circonstances de cette chose-là. Je pense que après la guerre, si elle n'avait pas été une femme, on aurait peut-être reconnu son mérite et on lui aurait donné le prix Nobel de physique. On avait donné le prix Nobel de chimie à Hahn. On aurait pu, comme dans beaucoup de cas, elle avait une double tare. Elle était juive et elle était femme. Et elle n'a jamais été récompensée, en tout cas à ce niveau-là, pour ses découvertes. Donc voilà les premières circonstances. En ce qui concerne Jocelyn Bell, après avoir mis un certain temps à convaincre son patron de thèse, Anthony Hewish, que le résultat qu'elle avait obtenu était intéressant, eh bien, une fois qu'il a été convaincu, il a écrit un papier, un article, dans la prestigieuse revue Nature, où son nom, à lui, apparaît en premier, celui de Jocelyn Bell en deuxième. Donc, il se met en avant, c'est lui qui donne les conférences, et Jocelyn Bell, petit à petit, est effacée, complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à la fin de ses jours, qu'il nous a quittés il y a je crois 2 ans à peu près, Anthony Wish. Jusqu'à la fin de ses jours, il disait « Il ne faut pas confondre l'équipage et le capitaine. » Quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est à Christophe Colomb qu'on a crédité cette découverte, et non pas à la vigie qui, en haut du mât, a dit « Terre, terre ». Donc voilà sa comparaison, vous voyez, du travail de Jocelyn Bell et de sa position à lui, ce qui est quand même relativement scandaleux. Donc voilà d'autres circonstances, mais en fin de compte, on a eu des hommes, Otto Hahn d'un côté et Anthony Hewish de l'autre, qui se sont mis en avant sans scrupule, sans non plus voler les résultats, on ne peut pas dire qu'il y a eu vol de résultats, et un comité Nobel qui a ignoré le travail de ces femmes. Et ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait l'une et l'autre? Elles ont dit, bah, oh, il y a plus grave dans la vie, c'est pas important. Jocelyn Bell a dit, je suis très heureuse parce que c'est la première fois que le comité Nobel reconnaît l'astrophysique. Et pourquoi elles ont réagi comme ça? Parce qu'une femme ne peut pas réagir, en tout cas à l'époque, ne pouvait pas réagir autrement. Parce que on les aurait traités de tous les noms, d'hystériques, de voilà, il faut s'effacer, il faut pardonner, il faut être gentil, pas crier sa colère. Aujourd'hui, on peut espérer que les choses ont changé. En tout cas, on peut crier. Mais à l'époque, c'était ça. Et elles ont eu des réactions dans des circonstances très différentes, mais absolument similaires.
Oui, ça, c'est le point commun. Comme on disait, le processus de spoliation, si on peut dire ça comme ça, n'est pas le même, et les réactions sont vraiment les mêmes. Et quand on voit les pièces, on peut même être un petit peu frustré, mais j'imagine que c'est aussi voulu, parce que ça suscite l'intérêt. Être frustré par le... Je le dis durement pour marquer la chose, mais par le manque de combativité, parce qu'on se dit elles sont tellement incroyables, elles ont tellement fait, elles devraient être tellement sûres d'elles, et au final, alors pas forcément chez Liz Meitner, mais chez Jocelyn Bell, qui est étudiante à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent? Un manque de... un sentiment chez elle de manque de légitimité. Presque, je ne suis qu'une Irlandaise, je ne suis qu'une étudiante, je ne suis pas assez quelqu'un pour me mesurer à lui. Et puis, le manque d'assurance, je n'ose pas lui en parler. Donc, c'est même au-delà, peut-être, de ce truc de... comme vous dites, de peur d'être traité d'hystérique, c'est-à-dire même simplement de se dire, on a l'impression qu'elle doute même que c'est grâce à elle que l'article a été écrit, par exemple. C'est-à-dire qu'elle en vient à douter de ce qu'elle a produit.
Absolument. Je disais tout à l'heure que souvent ces femmes ont une double tare. Jocelyn Bell, irlandaise du Nord, se considérait comme pas à sa place à l'université de Cambridge, parce que les Anglais du Sud considèrent les Irlandais un peu comme des sauvages, et donc elle avait ce double syndrome de l'imposteur, d'être finalement socialement pas à sa place, et d'être un alien, pour employer un terme anglais, parce que c'était une femme dans un milieu presque exclusivement masculin. Donc beaucoup de femmes, beaucoup de chercheurs de manière générale, pour être honnête, ont ce syndrome de l'imposteur, parce qu'on passe son temps à ne pas comprendre, et une fois qu'on a compris, on a l'impression que c'est évident. On a l'impression de pas être bon, et c'est probablement un des aiguillons de la carrière des chercheurs. Mais les femmes, dans les milieux, en tout cas très masculins, comme la physique, les mathématiques, se sentent tellement différentes de leur entourage qu'elles se sentent déplacées. Et elles ont ce syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je fais ici? Je n'appartiens pas au monde où j'évolue.
Et d'ailleurs, ce syndrome de l'imposteur, on pourrait se dire, je ne sais pas qu'il est simplement, alors simplement c'est pour aller vite, mais qu'il est simplement issu de la sociabilisation en général des femmes. Mais justement, par exemple, dans la seconde pièce prix Nobel, elle raconte, et c'est assez poignant, comment elle a été traitée à l'université par ses... camarades masculins, est-ce que vous pouvez nous décrire ça et en quoi c'est totalement en lien en fait avec le syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait il est créé de toutes pièces de façon très tangible.
Tout à fait. Alors elle raconte qu'elle était la seule fille à faire de la physique à l'université de Glasgow, parce qu'avant Cambridge elle a eu son, on pourrait dire son master à l'université de Glasgow. Et quand elle entrait dans un amphi pour aller suivre ses cours, tous les garçons se mettaient à taper des pieds. Et elle se sentait, donc pour le moins, elle ne se sentait pas bienvenue dans cet amphi. Elle sentait qu'elle n'était pas à sa place, elle n'était pas admise par ceux qui auraient dû être ses pairs et qui la considéraient comme une intruse. Et ce qui était pire encore, c'est que les profs faisaient semblant que rien ne se passait. Donc personne ne leur disait rien à ces garçons qui tapaient des pieds. Donc elle se sentait délaissée de toutes parts, en proie à sa propre solitude. Enfin, on peut imaginer comment une jeune femme d'une vingtaine d'années peut se sentir dans ces circonstances-là. Et pourtant, elle a continué à travailler et elle a si bien réussi qu'elle a eu une bourse pour partir à Cambridge.
C'est ça, et justement, même à ce moment-là, elle confie à son ami, qui est le troisième personnage de la pièce, et qui rajoute vraiment un côté très humain, parce que c'est ça aussi tout l'enjeu, c'est qu'on parle d'astrophysique pendant toute la pièce, et en même temps, il faut passer par l'émotion, comme vous expliquez souvent, et donc ce personnage est vraiment là pour ça, pour humaniser le tout. Donc ce personnage de son amie qui s'appelle Janet lui dit Jocelyn Bell dit à Janet, oui j'ai une bourse, mais justement ils m'ont accepté parce que j'ai la bourse, et quand ils se rendront compte que je suis une imposture, ils vont me virer. Et ce qui est absurde, si t'as eu une bourse, si justement que ton travail méritait d'être là, mais en fait c'est limite l'argument pour s'inquiéter de sa prochaine et future du fait qu'elle serait virée prochainement.
Oui, tout à fait. C'est parce qu'elle a eu une bourse irlandaise. Donc, elle arrive à Cambridge gratuitement, finalement. Pour ses profs, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Donc, elle le dit, main-d'œuvre gratuite venant des contrées reculées du pays. Ils m'ont accepté, mais en fait, quand ils vont se rendre compte que je suis pas au niveau, ils vont me virer. Donc, elle a travaillé, mais comme une folle, tout le temps, absolument tout le temps. Mais il n'y a pas que le fait de travailler qui l'amenait à ces résultats. Il y a l'intelligence de remarquer qu'il y a un signal bizarre, que c'est pas la première fois qu'elle le voit. Il y a la ténacité qui fait qu'elle elle veut pas laisser tomber. Elle aurait pu se dire bon, c'est pas ce que je cherche, je m'en fiche de ce signal bizarroïde, moi je cherche un autre type de signal, c'est le sujet de ma thèse, et donc je continue à faire les recherches pour lesquelles j'ai été recrutée finalement, et je me fiche de ce petit signal. Non, elle a eu cette ténacité, cette curiosité, et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment sa personnalité à elle, c'est son talent. Et ça, elle le minimise tout le temps, en tout cas, elle le minimisait à l'époque.
Et justement, à propos de ce regard différent, donc il y a ce syndrome de l'imposteur dont on parle, mais à un moment donné, je crois que c'est vers fin de la pièce, elle dit que si elle a réussi à voir ce qu'elle a vu, c'est aussi... Alors, je sais plus si elle ou si c'est Janet qui le dit, mais c'est une scène où elles sont toutes les deux, que si elle a réussi à voir ce qu'elle a vu, c'est aussi parce qu'elle était porteuse de, justement, de ce regard différent d'Irlandaise, comme elle dit, fille de Quakers. Est-ce que le fait qu'il y ait une minorité moins de femmes que d'hommes dans le milieu scientifique, mais surtout qui, donc non seulement moins de femmes, mais peut-être pas assez issues de milieux différents, est un frein à la recherche scientifique selon vous ?
Moi, je pense qu'il faut arrêter de se priver de la moitié de l'intelligence du monde. C'est évident que chaque personnalité, et en particulier les femmes, vont apporter une vision différente de la science, vont regarder les choses autrement et donc vont découvrir des choses nouvelles. Et il faut arrêter de se priver de cette richesse immense pour la science. Et c'est vrai que Jocelyn Bell, donc, qui n'a pas eu le prix Nobel, a eu des prix de toute catégorie. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer et de l'écouter quand elle a eu le Grand Prix de l'Académie des sciences françaises, qui est la distinction la plus élevée qu'on puisse donner à un étranger ou à une étrangère. Et elle a eu aussi le Breakthrough Prize américain, qui est accompagné de la modique somme de 3 millions de dollars. Eh bien, cette grande dame n'a pas touché un centime de ces 3 millions de dollars. Elle a donné à l'Institute of Physics pour créer des bourses de thèse pour les étudiants issus des minorités, les femmes, mais pas que. Parce que, effectivement, il faut bien dire que l'inclusion des minorités au-delà des femmes, minorités ethniques ou minorités sociales, des gens qui viennent de milieux plus défavorisés, eh bien, cette inclusion est loin d'être une réalité. Et il faut l'encourager parce que, encore une fois, quand on a des backgrounds culturels différents, on peut voir des choses différentes et découvrir ce qui ne serait pas découvert par des gens qui sont dans le mainstream, qui ont tous peu ou prou le même bagage culturel. Donc, elle a raison et elle dit je l'ai fait pas seulement par générosité, mais pour encourager les gens qui ne sont pas inclus en général par la science et qui vont avoir un regard différent.
Dans ce processus où l'histoire avec un grand H ne retient pas encore et pas assez les femmes scientifiques, il y a quelque chose qui a un nom qui s'appelle l'effet Mathilda. Et qui, j'imagine, concerne ces trois femmes dans la trilogie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors l'effet Mathilda, qui a été donc nommé par une journaliste américaine, c'est justement l'invisibilisation des femmes scientifiques au profit de leurs collègues masculins. C'est exactement ce dont ont souffert Liz Meitner, Jocelyn Bell, Rosalind Franklin et d'autres. Si on a donné un nom à ce phénomène, c'est qu'il est justement extrêmement courant malgré les circonstances particulières de cette invisibilisation, suivant les époques, suivant les pays, suivant les circonstances particulières, l'âge de la capitaine et de la vitesse du vent.
C'est important de parler d'aspect systémique parce que, du coup, quand on regarde les trois pièces, donc encore une fois dans l'ensemble, on a l'impression, alors peut-être pas certaines personnes dans la troisième pièce, notamment Watson, Wilkins aussi d'ailleurs, mais Watson est vraiment un personnage extrêmement antipathique et extrêmement beauf en fait. il est très... je sais même pas comment on pourrait dire, il est très méprisant, condescendant, paternaliste avec Rosalind Franklin, mais dans les deux premières pièces, Otowan et Wish, ils n'ont pas l'air, fondamentalement mauvais. Mal intentionnés, on n'a pas l'impression que ce sont des mauvaises personnes, et pourtant il arrive ce que nous avons décrit, voilà cette espèce de spoliation. Vous qui avez écrit ces pièces, qui avez travaillé sur ces histoires, qu'est-ce qui se passe selon vous, qu'est-ce qui se joue pour eux dans leur conscience, est-ce qu'ils sont conscients de faire ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que c'est intentionnel, est-ce qu'ils ne s'en rendent pas compte, est-ce que pour eux c'est normal? Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là ?
Je pense que c'est tout à fait normal. On parlait tout à l'heure de ce que Wish disait sur Christophe Colomb et la vigie en haut du mât. Pour lui, c'est tout à fait normal. C'était le chef, c'est à lui que vont les honneurs. C'est tout à fait normal. Et il est très paternaliste, vous l'aurez vu dans la pièce. C'est un bon papa qui lui dit il faut choisir entre une vie de famille et une carrière scientifique. Quand on est une femme, moi qui suis un homme, évidemment je peux faire les deux, puisque j'ai une femme à la maison qui va s'occuper des enfants, des courses, du ménage, du chien, de tout. Donc c'est un... Il l'aime bien, Jocelyn Bell, il reconnaît qu'elle a du talent. Et lui, dans son discours Nobel, il la cite abondamment. Mais comme un bon papa, c'est quand même grâce à lui que tout arrive, quoi. Et quant à Otto Hahn, il a beaucoup de respect pour Lise Meitner, scientifique. Il lui demande son avis, il veut qu'elle réfléchisse à ce qu'il a trouvé que lui ne comprend pas et qu'elle finit effectivement par comprendre. Il n'est pas méchant, mais il est conscient que quand même c'est un homme, on le voit au début de la pièce. C'est lui qui lui apprend qu'elle a été nommée professeure, première femme en Allemagne. C'est lui qui lui dit « je suis fier de toi ». Pourquoi il est fier d'elle ? Il n'a pas à être fier d'elle, c'est pas lui qui l'a fabriquée. C'est un système dans lequel ils sont englués, donc ils se disent pas du tout c'est mal ce que je fais. Au contraire, je suis gentille, je donne des conseils, je suis fière de ma collègue. Mais en quoi je lui offre des fleurs pour la féliciter. Enfin, voilà.
Ils ont peut-être même l'impression de lui donner une chance, notamment Wish avec Jocelyn Bell, qui est son étudiante. Je lui ai permis de se révéler. Mais par contre, dans la troisième pièce, qui est, si je ne me dis pas de bêtises, l'époque la plus moderne, c'est ça ? Non.
Non, l'époque c'est la plus moderne, c'est, oh, la,
c'est
deuxième.
La deuxième.
C'est la deuxième.
Mais... je me suis trompée. Mais en revanche, cette fois, on n'est pas dans un cas comme on vient de le décrire, puisqu'il y a, le vol. Et donc là, j'imagine qu'on se situe quand même pas dans cette inconscience, dans cette subconscience dans l'acte. Ils sont très conscients de ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils font deux fois.
Oui, qu'ils font deux fois, puisqu'ils volent la fameuse photographie 51. Que tout le monde peut trouver en tapant sur un moteur de recherche photographie 51, elle saute aux yeux, un rapport remis au Medical Research Council qui n'aurait jamais dû être donné à Crick et Watson. Donc là, la chose est beaucoup plus violente parce que effectivement c'est du vol. Et là, on est plus tard temporellement que dans l'histoire de Lise Meitner, et c'est pas une étudiante, donc c'est une concurrente. Rosalind Franklin, c'est une concurrente. Il voudrait bien travailler avec elle, travailler avec elle, elle voit pas l'intérêt, elle, de travailler avec eux, parce qu'elle est tout à fait capable d'interpréter ses résultats expérimentaux toute seule. Mais eux, ils ont besoin des expériences pour bâtir leur modèle. Donc, ils ont besoin d'elle. Elle n'a pas besoin d'eux. Donc, elle refuse une collaboration dans laquelle, de toute façon, on peut imaginer qu'elle aurait été noyée, invisibilisée aussi. Elle refuse cette collaboration, donc ils n'ont plus qu'un choix, c'est voler les résultats. Et ils le font à trois, Wilkins, Crick et Watson, de façon éhontée.
Et ce qui est terrible, c'est que aujourd'hui, des personnes, même universitaires, scientifiques, connaissent le nom de Crick et Watson, bien sûr, bien sûr.
Bien sûr.
Mais Rosalind Franklin, j'ai posé la question autour de moi à des personnes qui sont dans ce milieu. Et vous connaissez Rosalind Franklin ? Non, ça me dit rien. Et c'est faux parce que je leur ai dit, bah, vous connaissez le nom de sacré voleur, mais pas de la personne qui a travaillé. Ils étaient estomaqués et eux qui savaient plus que moi ce que ça signifiait étaient vraiment impressionné. Ce qui est intéressant aussi dans la troisième pièce, c'est que cet aspect systémique dont on parlait, il commence dès le début de la pièce, donc elle était en France, elle décide de rentrer dans son pays natal, en Angleterre, et d'intégrer, donc, je ne sais plus le nom de l'université,
King's de
College,
Londres.
Et on lui dit, pas pour la persuader de venir, mais dans l'offre de poste, vous êtes chef de votre propre service, vous avez votre service, voilà. Et on dit à Wilkins, qui est un autre chercheur dans l'université, vous aurez une assistante.
Oui, tout à fait. Et c'est là que les problèmes ont commencé entre Maurice Wilkins et Rosalind Franklin. C'est que tous deux de bonne foi, lui pensait que Rosalind Franklin venait pour être son assistante et elle pensait créer son groupe. Et c'est John Randall, le patron du département de biophysique de King's College, qui a été au-dessous de tout en disant des choses différentes à l'un et à l'autre. Donc les choses commençaient mal. Mais bon, ils auraient pu clarifier les choses de façon moins conflictuelle. Ça a été très conflictuel parce que là encore, Wilkins, pensant qu'elle était son assistante, a eu cette attitude paternaliste avec elle, qu'elle n'a pas pu supporter. Et ça s'est mal passé. Et du coup, il a fait alliance avec Crick et Watson, qui eux travaillaient au Cavendish, qui est un laboratoire prestigieux de Cambridge, donc finalement pas très loin de Londres, pour subtiliser les résultats de Franklin.
Mais pourtant, dans la pièce, à un moment donné, plutôt vers le début, il me semble, Rosalind Franklin est plutôt claire avec Wilkins sur le fait qu'elle n'est pas son assistante et qu'il y a eu un quiproquo, mais je veux dire, il n'est pas levé en fin de pièce. Wilkins est bien au courant, alors certainement frustré et déçu, mais il est au courant, pas quand elle arrive, mais une fois que, je ne sais pas, après peut-être quelques semaines ou quelques jours de travail, ils ont cet échange-là. Mmh. Et il ne le supporte pas, il lui demande de lui donner la moitié du temps son matériel qu'elle a construit elle-même, sans lequel elle ne peut pas travailler. Donc en gros, elle lui demande de ne pas travailler la moitié du temps, mmh, et à son profit à lui, ce qu'elle refuse. Et plus tard, quand avant le vol, ou entre les deux vols, je ne sais plus, Watson vient la voir et il y a cette scène hallucinante où il lui dit partagez vos résultats avec... Alors c'est très clair, hein, partagez vos résultats avec nous.
Oui.
Et elle est là, et on sent la stupéfaction, mais non, pourquoi je ferais ça? Ça n'a aucun sens. Et lui dit, pourquoi je ferais ça? Et il lui répond, je crois, c'est évident. Et alors là, on se dit, c'est tellement incroyable de penser que c'est évident, alors que ça n'est absolument pas. Et il lui dit, c'est évident. Et alors elle lui dit, mais en quoi est-ce évident? Elle fait, vous avez besoin de nous pour interpréter vos résultats.
Mmh. Voilà, oui, tout à fait. Et elle est scandalisée parce qu'elle est tout à fait capable d'interpréter ses propres résultats. Donc, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, eux, ils ont besoin d'elle parce qu'ils n'ont pas de résultats expérimentaux. C'est pas des expérimentateurs. Donc, ils ont besoin de se baser sur la réalité des observations. Mais elle, elle n'a pas besoin d'eux pour interpréter ses résultats. Elle est tout à fait capable de les interpréter toute seule. Donc, c'est totalement... Donc, ils volent.
Mais alors, c'est là qu'on revient à notre question tout à l'heure sur pourquoi les femmes ne réagissent pas. On a parlé des deux premiers cas. Mais là, je me suis questionnée sur le troisième parce qu'elle ne peut pas se dire qu'elle est étudiante. On n'est pas au sortir de l'Allemagne nazie. Et à la fin de la pièce, donc, elle. Ou alors j'ai mal compris, mais j'ai l'impression qu'elle comprend qu'ils ont trouvé la structure en double hélice et qu'ils ont du coup raison. Et elle est très intelligente et on a l'impression, alors c'est pas clair, mais que peut-être le doute est laissé, mais qu'on ne sait pas si elle a compris qu'elle a été volée ou non. Alors je sais pas si il faut le dire ou pas, mais si elle a compris, pourquoi ne s'est-elle pas battue ?
Ben, je pense qu'elle a compris qu'elle avait perdu la bataille. Pourtant, effectivement, en plus, le caractère de Rosalind Franklin, c'est une battante. C'est pas Jocelyn Bell et c'est pas Liz Meitner. C'est quelqu'un qui dit haut et fort, non, vous n'aurez pas mes résultats. Et ce que je trouve tragique et intéressant dans cette histoire, c'est que malgré ça, elle se fait avoir. Malgré ça, on lui vole ses résultats. Elle peut pas lutter malgré sa volonté de lutter, malgré sa détermination à ne pas se faire piller, elle se fait piller quand même. Et on ne sait pas, en fait. C'est pour ça que j'ai laissé le doute dans la pièce, c'est que historiquement, on ne sait pas si elle a compris qu'elle avait été volée ou pas. Et ces trois femmes, comme bien d'autres, ont quand même une hauteur de vue qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que Rosalind Franklin, elle dit, au fond, la science a avancé, votre modèle est le bon, c'est une conclusion à laquelle j'étais arrivée moi-même. Et donc, tant mieux, la science a avancé. Il y a une espèce de bien qui dépasse le bien individuel, la gloriole, qui est ce pourquoi les chercheurs devraient travailler. On aimerait que tout le monde pense comme ça, non ? Je trouve ça absolument admirable.
Ce qu'il y a, c'est que les trois personnages, même si elles ne le formulent pas forcément de cette façon, ont cette soif de découverte et qui font qu'elles ont aussi, j'ai l'impression, ce talent au-delà de leur capacité intellectuelle qui sont certaines, mais je veux dire. Et en fait, dans les trois pièces, on sent cette limite que vous posez, j'ai l'impression, entre l'envie de compétition, l'envie de lutte, l'envie de combat, de gagner, de victoire, de trophée, et l'envie de savoir qui peut se passer, en fait, de tout ça et qui se suffit à elle-même. Et ces femmes sont imprégnées de cette soif-là, et on a l'impression que les hommes sont presque uniquement, après c'est un peu dur de le dire comme ça, mais en tout cas pour ceux qui les spolient, uniquement de la première, cette soif de la reconnaissance, de la victoire, même s'ils n'y sont pour rien. Et c'est peut-être là aussi que se joue... est-ce que pour vous c'est lié au milieu scientifique ? Est-ce que c'est une socialisation en général ?
Oh non, je crois que c'est tout à fait général. C'est qu'il y a des assignations de genre qui font que des garçons, on attend qu'ils se battent et qu'ils se mettent en avant. Je vois dans le chat, elle était au service de la science alors qu'eux étaient au service de leur ego. Oui, on peut résumer ça comme ça. Mais il ne faut pas perdre de vue que les garçons ont des assignations de genre qui peuvent d'ailleurs les faire souffrir terriblement aussi, parce qu'il y a des garçons qui n'aiment pas être dans la bataille, écraser la figure des autres, c'est pas leur but dans la vie, mais ceux-là étaient dans le moule, donc c'est ce qu'ils ont fait.
dans la seconde pièce sur Jocelyne Bell, pour parler encore de ces assignations de genre, il y a un moment très particulier. C'est juste après, il me semble, que Ewish est publié dans Nature. Il y a une journaliste donc, qui est jouée par la même actrice qui joue la copine de Jocelyne Bell. Donc c'est chouette parce qu'il y a ce petit switch des fois de personnages. Et donc là, qui n'est plus sa copine, clairement, qui est une journaliste, et qui interviewe Ewish. Il parle de façon très grandiloquente, alors que encore une fois, c'est absolument pas lui qui a mené la recherche. Et il y a Jocelyne Bell un peu derrière qui aimerait bien parler et qui soit est coupée, soit fait face à un entretien assez hallucinant. Et alors, c'est justement Jocelyne Bell qui vous l'a raconté, puisque vous êtes entretenu avec elle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet entretien? Et parce que dans la pièce, vous ne racontez pas tout ce que vous en savez.
Absolument. Donc, j'ai eu le plaisir d'interviewer Jocelyne Bell, qui a près de 80 ans, quand elle me relatait ses interviews, puisque dans la pièce, il n'y en a qu'une, mais il y en a eu plusieurs, avait des larmes dans les yeux tellement c'était violent. Parce que, donc, on posait des questions sur la science à Anthony Hewish, et à elle, on lui posait des questions de fille, c'est-à-dire quelle est la couleur de vos cheveux, blonds ou brunettes, vous avez un petit ami ou vous n'en avez pas, ou peut-être en avez-vous plusieurs, et il y a une question que je n'ai pas mise dans la pièce parce que je me suis dit allez, on va dire ces féministes qui exagèrent et qui racontent n'importe quoi pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est ce que m'a raconté Jocelyne Bell. On lui demandait ses mensurations. Alors, on peut imaginer une jeune femme en construction qui a le nez dans les étoiles, qui rêve de découvrir d'autres mondes et qu'on ramène à sa condition de femme, de morceau de viande, en lui demandant ses mensurations. Quelle souffrance, quelle violence ça a été pour elle. C'est quelque chose qui m'a absolument bouleversée, et j'ai tenu à mettre ça dans la pièce parce que je trouve que c'est d'une violence inouïe, quoi. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée quand elle m'a raconté ça.
Pour dire qu'il y a l'action de ces hommes qui sont leur père, mais il y a aussi une complicité sociale assez forte, en fait, une complicité médiatique, le choix des comités des prix Nobel qui auraient pu décider de le décerner, par exemple Lise Meitner, le choix a été fait de ne pas lui donner, alors que, comme vous le disiez, elle a été considérée de façon tout à fait éhontée comme la mère, alors juive, de la bombe atomique. Donc je veux dire, la reconnaissance quand elle était honteuse était bien là, mais quand elle aurait pu être triomphante, ne l'a pas été. Donc ça se joue pas seulement au niveau de ces hommes là c'est aussi un système global. Et dans une autre pièce que vous avez écrite, Le paradoxe des jumeaux, vous racontez que même concernant souvent la seule femme que l'on peut citer quand on demande à des gens pouvez-vous citer le nom d'une femme scientifique, en général ils ne mentionnent qu'une seule personne, Marie Curie. Et vous racontez dans cette pièce que même pour cette femme-là, cette seule femme-là, c'est joué un sexisme lié à sa relation avec Paul Langevin et qui, pour la discréditer.
Bah, le sexisme dans la vie de Marie Curie s'est manifesté à plusieurs égards. Par exemple, le premier prix Nobel en 1903 qu'elle a obtenu avec Pierre Curie, son mari, et Becquerel, Henri Becquerel, pour la découverte de la radioactivité, ce prix Nobel, elle n'était pas censée l'avoir. En fait, l'Académie de Stockholm a demandé à l'Académie de Paris de lui donner des noms possibles de physiciens pour le prix Nobel de physique, et l'Académie de Paris a dit Pierre Curie et Henri Becquerel. Et c'est Pierre Curie qui s'est insurgé en disant « Mais Marie a travaillé au même titre, c'est pas mon assistante, c'est pas parce qu'on est mariés que c'est mon assistante. Elle a travaillé, c'est une chercheuse. » Il y a même d'ailleurs des articles de Marie Curie où elle est la seule signataire. Donc, voilà. Donc, l'Académie de Stockholm a obtempéré parce que Pierre Curie menaçait de refuser ce prix Nobel. Donc, il a été décerné à ces trois personnes. Mais vous savez, quand c'est le prix est décerné à trois personnes, la somme d'argent qui va avec est en général divisée de façon équitable en trois. Là, non. Il y a eu la moitié pour Henri Becquerel et l'autre moitié pour l'écurie. Le ménage, quoi. Ce qui est dingue. Et en 1911, donc Marie Curie a obtenu un deuxième prix Nobel de chimie cette fois. Pierre Curie était mort depuis 1906. Et donc on lui a dit, vous allez avoir le prix Nobel de chimie. Et a éclaté dans la presse d'extrême droite un scandale sur le fait qu'elle avait une relation avec Paul Langevin, qui était un très grand physicien aussi, qui lui était marié. Elle était parfaitement libre, hein, puisqu'elle était veuve depuis plusieurs années. Mais évidemment, c'est elle qu'on a traînée dans la boue dans les journaux. Lui, on disait, c'est Marie Curie était polonaise, hein, d'origine, et on disait c'est le Chopin de la polonaise. Bon, c'était pas glorieux, mais c'est elle qu'on a traînée dans la boue, qu'on a voulu renvoyer en Pologne, elle était professeure à la Sorbonne, on a voulu la renvoyer, ça s'est fait à un cheveu qu'elle ne soit renvoyée de la Sorbonne. Et enfin, un chimiste suédois, puisque le scandale a atteint les autres capitales européennes et même les États-Unis, il y a un chimiste suédois qui, au nom du comité Nobel, lui a écrit en catimini pour lui demander de renoncer au prix. Et elle a refusé de renoncer au prix, ce qui était un courage incroyable finalement de s'opposer à ce système. Et elle est allée chercher son prix à la fin de 1911 à Stockholm. Mais tout cela l'a atteinte tellement que pendant toute l'année 1912, personne ne l'a vue. Elle était malade de ce qui était arrivé. Donc même Marie Curie n'a pas échappé à ce sexisme.
Quand on parle de ce systémique dans l'invisibilisation des femmes dans la science. Là, on donne trois exemples du XXe siècle. En France, il faut attendre 1938, par exemple, pour que les femmes puissent s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari, si elles avaient un mari. Donc, est-ce que cette présence niée, occultée des femmes dans la science n'a réellement été... présente qu'à partir de la possibilité légale pour les femmes, par exemple, de pouvoir aller à l'université, donc par exemple en France 1938, ou est-ce que on peut trouver des femmes qui ont accompli de grandes avancées scientifiques tout au cours de l'histoire, finalement, et ce n'est pas du tout un sujet contemporain.
Absolument. Il y a des femmes qui, malgré le fait qu'elles étaient interdites d'université, interdites d'études supérieures, etc., ont fait de grandes avancées, parfois dans l'ombre de leur mari, comme Madame Lavoisier, auprès de Lavoisier, le grand chimiste, mais elle était visiblement une grande chimiste aussi. On en trouve partout de ces femmes, mais évidemment en moindre nombre, parce qu'il est quand même assez rare pour qui que ce soit d'être autodidacte au point de faire de grandes découvertes. En général, ça demande une certaine éducation scientifique, donc il faut au moins aller faire des études à l'université pour être en capacité de faire des découvertes scientifiques. Mais à partir du XXe siècle, on voit que ces femmes sont légion.
Et est-ce que vous-même, en tant que physicienne, vous avez été confrontée à du sexisme déjà à une construction de la part de vos pères d'une moindre légitimité parce que femme ou voilà et à quelque chose peut-être par rapport à des travaux ou à des recherches où votre contribution n'était pas ou votre entier travail n'était pas reconnu à sa juste valeur.
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est une femme, il faut travailler deux fois plus pour être crédible. Donc ça, je pense que c'est général et ça s'est appliqué à moi comme à bien d'autres. Il faut vraiment travailler beaucoup plus qu'un homme dans la même position pour que ses travaux soient reconnus. Ça, c'est vraiment général. Moi, j'ai été pas trop... je n'ai pas été très en but au sexisme tant que j'étais étudiante ou jeune chercheuse. J'avais des remarques sexistes sans arrêt, mais ça n'a pas entravé le cours de mes recherches jusqu'au moment où je suis devenue chef de service. Alors là, ça a été très compliqué pour certains hommes de supporter qu'une femme soit leur chef dans ce domaine scientifique où les femmes sont minoritaires. Ça c'est devenu difficile et là j'ai eu quelques problèmes jusqu'au moment même où j'ai recruté un jeune qui n'avait qu'une idée, c'était prendre ma place, un jeune aux dents longues, et là l'institution s'est rangée derrière lui. C'est-à-dire, lui a donné raison, on m'a dit, mais il faut faire la place, il est jeune, et puis on n'a pas dit c'est un garçon, mais je le sentais bien, et donc il faut lui faire la place. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des situations assez difficiles.
Oui, mais c'est la question suivante que j'allais poser. Zilou dans le chat qui dit « Ça m'intéresserait de savoir si une amélioration super lente est ressentie, on avance un peu dans la bonne direction ou pas du tout ?»
Moi, je pense qu'on avance dans la bonne direction, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, qu'il ne faut pas lâcher notre vigilance. Il faut être vigilante, il faut rien laisser passer. Mais on avance dans la bonne direction. Oui, je crois que... et puis, il faut reconnaître que depuis le début du mouvement MeToo, eh bien, tous ces noms de femmes scientifiques commencent à sortir, qu'on commence à en parler, qu'on commence à parler du problème. Et ça, je crois que c'est une grande avancée. Il faut le reconnaître. J'en suis très, très heureuse. Mais... faut pas abandonner le combat parce que on n'est pas sorti complètement d'affaire.
Oui, justement à propos du mouvement MeToo, il y a eu une question tout à l'heure. C'est de la part de Trognon. Puisqu'on parle de science et de féminisme, à quand un MeToo de la recherche ? Toutes les personnes du milieu ont pu observer des relations d'emprise et de harcèlement entre directeurs de thèse et thésardes. Je suis moi-même ancien doctorant au CEA.
Absolument, oui. Il faudrait mettre ça en place. Un MeToo de la recherche. Je crois qu'il y a eu plusieurs cas que maintenant les thésardes sont quand même plus écoutés qu'autrefois, grâce au mouvement MeToo général. Encore une fois, je crois que dans ce domaine comme dans bien d'autres, ça a fait du bien de secouer les choses et de faire en sorte que la parole des femmes soit écoutée. Mais ces spécificités de ce milieu scientifique pourraient être regardées de plus près s'il y avait un MeToo recherche. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de femmes ont déjà eu le prix Nobel Seul ou avec d'autres personnes?
Alors, je crois que c'est très, très minoritaire. Je crois que c'est 6% des prix Nobel, quelque chose comme ça. J'avais le chiffre, mais là, je ne m'en souviens pas exactement, mais c'est autour de ça. Donc, c'est très, très, très minoritaire. J'espère que là aussi, il y a une évolution. On peut se féliciter d'avoir vu décerner un prix Nobel de chimie à Emmanuel Charpentier, le prix Nobel de médecine à Cataline Carico, qui est à l'origine de l'utilisation de l'ARN messager pour les vaccins et qui sera, je l'espère, ma cinquième pièce.
Alors, qui sera le sujet de votre quatrième pièce?
Alors, la quatrième
et pour
pièce.
La cinquième, vous pouvez y revenir juste après.
La quatrième pièce, elle est déjà écrite et c'est l'histoire de Marthe Gauthier. La pièce s'appelle « La découvreuse oubliée ». Marthe Gauthier était une pédiatre française qui avait là aussi une double tare puisque ce n'était pas une fille de bourgeois, c'était une fille d'agriculteur et qui pourtant a fait médecine à la fin des années 40. Elle a eu l'internat de médecine en 1950. Il y avait 80 garçons et 2 filles, dont elle. Elle a fait la découverte de la trisomie 21, c'est-à-dire du chromosome surnuméraire qui affecte les enfants qu'on appelait autrefois les Mongoliens. Et ce résultat lui a été volé par un dénommé Jérôme le Jeune, qui a eu beaucoup, beaucoup de récompenses pour un résultat qui n'était pas le sien. Et je peux le dire d'autant plus librement, malgré la virulence des défenseurs de Jérôme le Jeune, que le comité d'éthique de l'INSERM s'est réuni et a donné raison à Marthe Gauthier. Voilà, donc et tout cela, toute cette histoire s'inscrit aussi dans les années 70 de la lutte pour la libéralisation de l'avortement. Donc un peu comme dans Exil intérieur, où on a une relation entre la grande histoire et l'histoire de ces savants. On a là, ça s'inscrit dans l'histoire de France des années 70 avec les mouvements féministes et la demande de libéralisation de l'avortement.
Excusez-moi, il y a le chat vous demande, et quand vous parlez de Jérôme le Jeune, c'est bien celui qui était fer de lance du mouvement anti-avortement, laissez-les vivre,
absolument,
et ainsi de suite, c'est ça, hein?
Absolument, c'est pour ça que ça s'inscrit dans la pièce s'inscrit dans cette histoire-là aussi. On en parle beaucoup et c'est un élément extrêmement important.
Est-ce que selon vous, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que si on demande à quelqu'un, mais je pense homme ou femme, dans la rue aujourd'hui, s'ils peuvent citer un autre nom que Marie Curie en tant que femme scientifique et qu'ils n'en trouvent pas, est-ce que selon vous, c'est uniquement, je dirais, la faute du milieu scientifique qui a soit découragé ces femmes à l'université, quand on parle, pour un exemple de Jocelyne Bell tout à l'heure, soit quand elles ont été volées ou effacées de leurs travaux par leur père, soit par le fait de ne pas avoir reçu le prix Nobel. Est-ce que ça se joue uniquement à ce niveau, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue dans la transmission, dans l'éducation, des femmes dont on pourrait parler, qui n'ont pas été oubliées, mais dont on ne parle pas, parce que c'est quand même incroyable. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est vrai, est-ce que je pourrais citer des noms de femmes scientifiques? J'ai cherché quand même longtemps. Donc, pour vous, à quel niveau ça se joue exactement?
Je crois que dans la conscience générale, une femme ne peut pas faire de science. Enfin, en tout cas, c'est très exceptionnel. Cette cette conviction qui malheureusement est aussi une conviction féminine, pas seulement masculine, ben elle arrive très très tôt. Apparemment, la bascule se fait au niveau du cours préparatoire. Donc, c'est bien avant l'université, c'est bien avant que certaines femmes se déterminent comme ayant une vocation scientifique. Et ça, c'est évidemment, ça demande de repenser tout un système éducatif, tout ce qu'on on véhicule tous. En tout cas presque tous, des préjugés qui nous disent qu'une femme n'est pas faite pour faire des sciences.
Parce que vous disiez tout à l'heure que même si c'était lent, on avançait dans la bonne direction, et c'est certain. Mais vous disiez aussi dans un entretien qu'il y avait moins de filles, alors je ne sais pas par rapport à quand, mais qui se lançaient, vous m'arrêtez si je me trompe, mais dans les mathématiques notamment, est-ce que vous pouvez nous en parler, à quoi cela est dû et par rapport à quelle époque on se situe ?
Oui, alors ça, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a toujours eu assez peu de femmes qui se lançaient dans les mathématiques. Ça fait partie de ces disciplines, contrairement à la chimie et à la biologie, la physique, surtout la physique théorique et les mathématiques, sont des domaines presque exclusivement masculins. Mais pour les mathématiques, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la réforme du bac, qui a fait que il y a eu une baisse de filles qui étudiaient les maths. Et puis avant ça, il y a eu la mixité de l'école normale supérieure. Et j'en ai parlé avec Martin Handler, qui est mathématicien, et avec Nicole Elkaroui, qui était professeure de mathématiques financières à l'école polytechnique. Et pour eux, ça a été une catastrophe, en fait. En partie parce que les femmes s'autocensurent et qu'elles n'ont pas envie de se trouver en compétition avec les garçons. Donc elles ne se présentent plus, alors qu'on formait des mathématiciennes de très haut niveau. Eh bien là, on n'en forme plus parce qu'elles ne se présentent plus au concours. Donc voilà, il n'y a plus de chercheuses en maths.
Et vous parlez de la réforme du bac, parce qu'il y en a eu plusieurs, de laquelle vous parlez, et en quoi elle a joué
sur... De celle, il y a quelques années, où on pouvait choisir des options, et où les filles ont cessé de choisir maths.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je pense qu'elles ont à l'esprit que c'est pas pour elles. Vous savez, il y a ce test à Harvard, je crois que c'était l'université d'Harvard qui a fait ce test. Bref, on a pris des classes et on a donc mixte, il me semble au niveau collège, et on a donné le même problème à ces différentes classes, mais à certaines classes, on a dit c'est un problème de géométrie, à d'autres, c'est un problème de dessin. Dans le cas où on a présenté ça comme du dessin, les filles ont surperformé, elles ont dépassé de loin les garçons. Quand on disait c'est un problème de géométrie, c'est les garçons qui surperformaient. Ça prouve bien que les filles et les garçons ont dans la tête que les garçons vont faire de la géométrie, les filles vont faire du dessin. Donc les garçons sont faits pour faire des mathématiques et les filles sont faites pour faire de l'art. Puisque c'était le même énoncé, le même problème. Donc, je crois que c'est dans les mentalités qu'il faut changer les choses. Alors, évidemment que plus il y aura de filles en sciences, et plus ça paraîtra normal, et ça aidera à changer les mentalités, mais c'est le serpent qui se mord la queue, parce que les filles n'y vont pas parce que les mentalités sont ce qu'elles sont. Donc, je crois qu'il faut commencer très tôt. Nous, on avait établi quelque chose pour les enfants au théâtre. Je crois que le théâtre peut aider beaucoup là-dessus. Moi, j'aimerais bien, si on avait les moyens de le faire financier, ce qui n'est pas le cas malheureusement, mais j'aimerais bien créer des groupes de filles qui viennent parler sur une scène de théâtre de ce qu'elles font en science. Et très tôt, dès la maternelle, parce qu'on a eu des enfants qui sont venus parler de ce qu'ils faisaient en science dès la maternelle. Pourquoi ? Parce que quand on s'exprime sur une scène de théâtre, on est le sujet, on n'est plus un objet. On ne subit pas, on dit, on prend en main sa pensée, si j'ose dire. Et je crois que ça, c'est très important pour que la science devienne notre chose, notre domaine, quelque chose à soi, qu'on s'approprie la légitimité de parler de science. Eh bien, en parler sur une scène de théâtre, ça peut beaucoup, beaucoup aider. Et j'aimerais bien travailler avec des groupes de filles, des enfants, pour leur apprendre à s'exprimer sur ce qu'elles ont fait en science sur une scène de théâtre. Je crois que ça peut aider. Il y a évidemment sans doute beaucoup d'autres choses qui peuvent aider, mais ça, je crois que ça pourrait être assez efficace.
Est-ce que, justement, à propos du pouvoir du théâtre, puisque vous... là, je ne sais plus si c'est la première fois ou pas que les trois pièces jouent à la Reine Blanche. Est-ce que c'est la première fois en ce moment ?
C'est la première fois que les trois vont se jouer, puisque l'affaire Rosalind Franklin n'est pas encore créée. Elle le sera en mai. Mais on a joué les deux premiers épisodes à la saison dernière.
Eh bien, à la saison dernière et cette année, mais aussi en Avignon.
Oui.
Est-ce que vous avez eu ce retour des spectateurs de ce pouvoir du théâtre et du fait que vraiment ils apprenaient quelque chose, ce qui est pas forcément toujours le cas au théâtre. Là, c'est comme je disais en introduction, c'est le théâtre scientifique, comme vous dites. Vous essayez de porter sur scène différentes sciences, qu'elles soient sociales, mais aussi là, en l'occurrence, dont on parle, des sciences dures. Est-ce que vraiment ça réveille et peut-être d'une façon plus efficace que ça ne l'aurait été par, je ne sais pas, un article ou un livre ?
Mais je crois que le théâtre étant incarné par définition, on peut véhiculer des choses par les émotions que ressentent les gens. Donc oui, les spectateurs sont contents d'avoir rencontré ces femmes au théâtre et d'avoir appris des choses. Aussi, on apprend ce que c'est incidemment que la fission nucléaire, on apprend ce que c'est qu'un pulsar, un quasar en astrophysique, on va apprendre ce que c'est que l'ADN et pourquoi on dit que l'ADN recèle le secret de la vie dans l'affaire Rosalind Franklin. Donc on apprend un peu de science, mais on apprend surtout qui étaient ces femmes et à quelles injustices elles ont dû faire face. Et c'est très important, ça fait partie de l'éducation à plusieurs niveaux, l'éducation du public à laquelle on souhaite à la Reine Blanche contribuer.
Et vous, est-ce que vous pouvez nous raconter comment et pourquoi vous avez eu envie en premier lieu de devenir physicienne, à quel moment de votre vie ça s'est joué et je ne sais pas s'il y a eu un élément déclencheur ou si ça a été, je ne sais pas, complètement naturel de se dire je vais devenir physicienne.
En fait, j'ai tout aimé, j'aimais l'école passionnément et j'aimais en particulier les maths. Je trouvais vraiment quand j'étais à l'école primaire et puis après au collège et au lycée que c'était un jeu, quoi. C'était vraiment très très ludique. Après, en classe préparatoire, j'ai trouvé que les maths, ça devenait vraiment très très abstrait et j'ai réalisé que je ne serais pas mathématicienne, j'avais pas le niveau. Mais je me suis prise d'amour pour la physique parce que la physique doit se confronter à la réalité des choses. Peut-être que je suis une grande rêveuse, moi, et que ça me fait du bien de me confronter à la réalité des choses. Voilà, donc ça m'a passionnée. Et ce qui m'a passionnée dans la physique, c'est la complexité extrême des choses qui paraissent simples.
Comme vous disiez tout à l'heure, il y a toujours une bonne raison pour ne pas donner le prix Nobel à ces femmes. Mais il y a une constante qui est répétée entre les épisodes reformulés. Les hommes se battent pour la première place et les femmes pardonnent. Est-ce qu'on en est, selon vous, sorti de cette configuration aujourd'hui où l'accès aux sciences, évidemment, est plus facile qu'aux époques dont on a parlé, au sortir de la guerre, dans les années 60, c'est oui. ça. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, aujourd'hui, les travaux des femmes scientifiques sont, entre guillemets, systématiquement toujours les leurs, ou est-ce que ce genre de choses arrive encore et on pardonne encore?
Alors, on pardonne moins, parce que quand je dis les femmes pardonnent, elles sont assignées à pardonner. C'est pas que elles ont envie de le faire ou que c'est dans la nature féminine. Je ne le crois pas du tout. C'est qu'elles sont assignées à, pour parler vulgairement, la fermer et pardonner et dire que tout va bien dans le meilleur des mondes alors qu'elles ont été pillées. Elles le sont de moins en moins assignées à ça. Les femmes se permettent... même si, j'ai vu dans le chat, les femmes peuvent crier aujourd'hui, mais elles sont toujours traitées d'hystériques. C'est vrai que ça arrive souvent. Mais elles le font quand même. Et je crois que ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, oui, bien sûr, il arrive... j'ai été témoin d'appropriation abusive de travaux de femmes au cours de ma carrière, oui, ça m'est arrivé. Où un chercheur, un chef de groupe va mettre son nom sur des travaux auxquels il n'a pas participé parce que c'est le chef et que c'est une fille, donc ça paraît tout à fait normal de mettre son nom sur des travaux qui ne sont pas les siens. Ça, je l'ai vu, oui, il n'y a pas si longtemps.
Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes filles, des jeunes femmes qui pourraient vouloir se lancer dans la carrière scientifique, mais qui se disent peut-être qu'il y a encore un prix à payer qui serait trop lourd? On sait par exemple que au niveau des carrières, peu importe le métier, là je parle pas forcément en sciences, mais que les femmes par exemple qui vivent une maternité vont forcément devoir à un moment donné s'arrêter, voire s'arrêter longtemps si elles n'ont pas d'autres solutions, et qui se disent déjà que la carrière dans le milieu scientifique est difficile, qu'il y a beaucoup de freins. Est-ce que vraiment ça peut être une source d'épanouissement, en fait? Est-ce que je fais bien d'y aller?
Moi, je crois qu'on fait bien d'y aller quand on aime ce métier. C'est un métier passion, la recherche scientifique. Il faut vraiment être passionné pour y aller, que ce soit filles et garçons. Parce que quand vous voyez les salaires d'entrée au CNRS, après tellement d'années d'études, il faut être passionné. Donc je crois que ça vaut le coup. Mais ce que j'ai envie de dire à ces jeunes femmes, c'est un, ne croyez jamais ceux qui vous disent que vous n'êtes pas faites pour ça. Si vous sentez profondément que vous êtes faite pour ça et que vous êtes prête à bosser et à vous battre, allez-y. Et puis, ne baissez pas les bras. Surtout, criez si vous devez crier. Faites savoir que vous existez et ne lâchez rien. Surtout, ne lâchez rien, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est comme ça qu'il y aura plus de femmes dans les milieux scientifiques, et c'est comme ça que, finalement, elles se sentiront moins déplacées.
Je ne sais pas si tu as relevé des questions. On peut peut-être...
La plupart des questions ont déjà été okay. répondues. Non, il y en a une de Zalo qui est très terre à terre, mais qui est extrêmement importante. Est-ce que vos pièces seront jouées ailleurs qu'à Paris? Vous avez parlé d'Avignon tout à l'heure.
Alors, elles seront jouées toutes les trois au Festival d'Avignon Off cet été, entre le 3 et le 21 juillet. Et puis, on espère beaucoup qu'elles vont tourner dans toute la France. Nous, on ne rêve que d'exporter nos pièces. Mais vous savez, la diffusion au théâtre, c'est quelque chose d'assez difficile, notamment depuis la pandémie. Et donc, voilà, on ne sait pas encore, mais on l'espère de tout notre cœur.
Et donc là, pour l'instant, vous pouvez voir les deux premières pièces à la Reine Blanche jusqu'à la fin de semaine, c'est ça ?
C'est ça. Donc mardi, mercredi, jeudi, c'est prix Nobel. Et vendredi, samedi et dimanche, c'est Exil intérieur. Donc les deux pièces peuvent se voir jusqu'à la fin de la semaine. Et du 7 mai au 9 juin... il y aura l'affaire Rosaline Franklin tous les jours, du mardi au dimanche.
Vous avez mentionné tout à l'heure les deux prochains volets de la trilogie. Par curiosité, combien aimeriez-vous en faire ? Et si vous ne savez pas, est-ce que vous pouvez nous donner encore plus envie de nous intéresser aux femmes scientifiques avec d'autres noms, peut-être dans d'autres pays, si vous en avez, ou d'autres continents, ou d'autres époques
Bon, voilà, je parlais de Cataline Carico, dont j'aimerais que ce soit la cinquième pièce. Rien n'est sûr encore, mais... parce que c'est une femme, cette fois c'est une success story. Elle a eu le prix Nobel de médecine, elle a fait cette découverte qui a quand même sauvé beaucoup de vies puisque c'est à la base du vaccin anti-Covid. Mais elle a longtemps été méprisée parce que ses recherches, elle n'avait pas de contrat d'industrie pharmaceutique pour ses recherches. Elle a été reléguée par les différentes universités dans lesquelles elle a travaillé. Enfin, c'est une histoire exemplaire et typique de femme où on voit qu'il faut se battre comme une folle pour défendre des recherches qui sont quand même d'un niveau prix Nobel, quoi. Et qui, incidemment, aident à l'humanité à survivre. Oh, il y a beaucoup de femmes, Rachel Carson, par exemple, qui était une pionnière de l'écologie, dont j'ai très, très envie de parler. Il y a déjà des pièces sur Hedy Lamarr, qui était une star hollywoodienne et qui a fait une découverte qui est utilisée encore dans le système Wi-Fi, qui était assez formidable. Moi, c'est vrai que je me cantonne aux femmes du 20e et 21e siècle parce que je voudrais aussi que ça serve d'identification possible à des jeunes femmes. Et je trouve que quand on va dans des époques antérieures au XXe siècle, c'est trop loin, on ne peut plus s'identifier. Donc il y aurait de belles histoires à raconter aussi, mais je me cantonne là. Il y a Barbara McClintock, qui est une très grande biologiste américaine, qui elle aussi s'est battue pour faire reconnaître ses travaux et qui a été couronnée par le prix Nobel. Et puis moi, vous savez, j'écris, je ne suis pas historienne, donc je ne fais pas de recherche sur l'histoire de ces femmes. Je me base sur les biographies qui ont été écrites. Donc il faut qu'il y ait des biographies, ou alors que je puisse interviewer la personne en question, comme c'était le cas pour Jocelyn Bell. Mais il y a beaucoup de femmes dont j'aimerais parler. Il y a la mathématicienne Myriam Mirzakhani, qui a été la première femme à avoir la médaille Fields en 2014. Elle existait depuis 1936, vous imaginez le temps qu'il a fallu attendre pour qu'une femme soit couronnée par la médaille Fields. Donc j'aimerais beaucoup écrire sur cette femme parce que c'est quand même étonnant, ça secoue un peu nos idées reçues, puisque cette femme était, hélas elle n'est plus de ce monde, était iranienne. Et c'est la seule femme qui paraît sur des affiches en Iran sans voile, ce qui est quand même incroyable. Donc c'est une personnalité très très attachante et extrêmement intéressante. Voilà, donc il y a plein de noms. Tant que j'aurai la force, le courage d'écrire, de faire ses recherches et d'écrire ses pièces et les moyens de les monter, ben je le ferai parce que je crois que c'est très important.
Alors, s'il n'y a plus de questions du chat, je vais conclure avec ma question rituelle, qui est la dernière de l'émission. Elisabeth Bouchaud, que fait-on de nos colères ?
On les exprime. On les exprime. Je pense que la colère, il ne faut pas la retenir. Il y a des colères saines. Et il faut que les femmes se fassent entendre. On disait tout à l'heure, effectivement, les hommes se battent et les femmes pardonnent. Ça, c'est une assignation de genre. Il faut refuser les assignations de genre si elles nous font souffrir, si elles mènent à l'invisibilisation des femmes. Je crois que j'encouragerais aussi les hommes à refuser de forcément l'agressivité comme assignation. C'est pas forcément ce que au niveau individuel les hommes souhaitent, et s'ils ne le souhaitent pas, eh bien il faut le refuser. Donc il faut exprimer cette colère.
Merci beaucoup, Elisabeth Bouchaud. Donc, le chat vous remercie aussi. Il y a Maître Bell qui vous dit merci, bravo pour vos actions. Merci beaucoup. Voilà, c'est particulier cette étude qui remonte. Ok. Merci pour cet entretien. Je vais l'envoyer à mes collègues chercheuses et ingénieurs de mon laboratoire de recherche.
voilà, c'est bien. Merci à vous.
Donc voilà, merci. On va envoyer les crédits. Donc Eurial qui est notre modératrice, merci Elisabeth Bouchaud. Voilà, et donc comme on le rappelle, les pièces, les deux premières se jouent encore jusqu'à la fin de la semaine pour ceux qui sont à Paris. La prochaine, c'est le mois prochain. Et sinon, pour ceux qui sont... peut-être dans le sud de la France, vers Avignon cet été, à Avignon. Quel beau travail, je fais circuler aussi, voilà. Ben, merci beaucoup. Voilà.
Et merci Pauline.
Et oui, voilà.
Absolument. Alors, je vais envoyer en fait le best-of de la saison 6. Et après, Pauline, tu reviens pour discuter avec les opposthiennes et les opposthiens. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Opposte.fr, c'est écrit là-haut, là. Voilà, c'est là qu'il faut aller.
Abonnez-vous, hein, opposte.fr.
Je t'ai pas demandé.
Ben oui, mais je le fais spontanément.
Eh, hey, on n'est pas chez les cons au poste, hein. Abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.
Super. Merci beaucoup.
Bravo. Abonnez-vous au poste pour sauver les bébés phoques et la liberté d'expression.
All camarades are beautiful.
Abonnez-vous
au poste. 3€ par mois.
Encore.
Abonnez-vous. Abonnez-vous au poste.
Rejoignez-nous. Abonnez-vous. Réabonnez-vous. Soutenez au poste.
Il y a des endroits où on va en traînant les pieds et c'est pas le cas ici. Ouais.
Pour une information libre et indépendante, abonnez-vous, donnez sur opposte.fr.
C'est ma grande sœur qui m'a offert l'abonnement au poste pour Noël, alors très bonne idée cadeau au passage, et c'est tout naturellement que j'ai renouvelé l'abonnement. Et des bisous.
Bah oui, abonnez-vous au poste, bien sûr.
Abonnez-vous au poste.fr facecam, alors attends. Hop, salut tout le monde, c'est Sentier Battant.
Abonnez-vous, bordel de merde.
Un grand merci aux humains abonnés au poste.fr.
Putain, mais je sais pas comment ça marche ce truc ou quoi. Abonnez-vous au poste.
Soutiens la riposte. Abonne-toi au poste.
Rendez-vous. Ah, putain, j'arrive jamais. C'est super dur en fait. C'est celui-là. Donc si je fais ça, c'est là. Voilà. Au poste.fr.
Votre média a un sens. Et pour moi et pour beaucoup de monde. Hein.
Abonnez-vous au poste.fr.
Abonnez-vous. Non, pas là. Au poste. Pas à là. Au poste.fr. Abonnez-vous.
Et abonnez-vous au poste parce que c'est bien ce qui fait Dufresne.
Super le poste, je me suis abonné récemment.
Parce qu'on n'est pas chez les cons ici.
Vive la communauté libre d'au poste.
J'ai oublié l'essentiel.
Abonnez-vous au poste. Hein, au poste.fr. Abonnez-vous.
Abonnez-vous. Abonnez-vous. Au poste.fr. Au poste.fr.